Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h, le Super Moscato Show.
Adrien
Aiguin. Bonjour à tous, le Super Moscato Show jusqu'à 18h en direct sur RMC avec la Dream Team qui est là, oui, comme tous les jours, Eric Dimeco. Salut Eric.
Bien Aiguin, eh bien ça alors, hein. Le Moscato Show avec Adrien Aiguin. Comment ça va Adrien?
Comment
salut,
ça va Eric? Ça fait toujours bizarre de s'entendre dans un générique,
ah, non, mais
on va
voilà,
pas se mentir.
Ouais,
mais c'est un beau générique.
La bise de Denis, la bise de Steve,
salut
les copains. Et je profite pour faire un coucou à un ami de la maison, puisque hier soir j'étais à un concert de Yann Muller qui était au festival Insane à Apt à côté de chez moi, voilà, donc c'était merveilleux. Et on l'embrasse parce qu'il nous écoute toujours et il est toujours d'une gentillesse absolue.
Toi qui boites pour aller à Apt, c'est pas une ville pour toi, ça. C'est inapte, t'aurais dû aller.
Ah ouais, moi quand j'ai vu Apt, j'ai failli retourner à la maison, je te jure.
Comment va Denis Charvet?
Salut très Denis. Bien, moi je suis ravi d'être dans le Aiguin Show aujourd'hui.
Ah ouais, là ça me déconne, on aura tout vu là.
Bonjour Stephen Brun.
Salut Adrien, Denis, Eric, écoute, en pleine forme. Je me suis dit, Eric est sorti hier parce qu'à 1h du matin quand il envoie des messages.
Ah oui,
c'est pas une insomnie, c'est que Eric.
Je te jure, hier soir, je me suis retrouvé dans un festival de musique techno. Il y avait plein de DJ, mais beaucoup très techno, tu sais. Des fois, je me disais, je regardais les jeunes, je me disais, mais qu'est-ce que tu fais là? À cette heure-ci, pourquoi? Non, mais c'est top, franchement, il est top. Il y a Petit Biscuit, vous le connaissez, Petit Biscuit?
Oui, bien sûr.
Voilà, ben il est action, il y était. C'est un bon aussi.
En tant que spécialiste des soirées, à ta voix, je reconnais que tu es sorti. Eric, oui, tu as la voix.
Oui.
Tu as la voix du monsieur qui est sorti.
Ah, ça s'appelle.
Tu avais quelques verres dans la main ou pas?
Quelques bières, non?
Ah, non, petit rosé
avec
local.
Avec modération.
Beaucoup de modération.
Alors, pas de soucis, je reçois déjà des messages d'auditeurs, de fans du Moscato Show qui sont inquiets. Pierre Dorian a pris quelques jours de repos.
Oui.
Il est à Saint-Jean-de-Luz, il est au Pays Basque, on le salue. Et Vincent Moscato a pris un jour de repos. Voilà,
qui RTT, est...
Pas de soucis, Vincent, t'as le droit de te reposer.
Il a fait une belle semaine.
Je vais vous expliquer la vérité. Mm-hmm. Il était avec moi hier soir, sauf que lui, il n'a pas mon physique, il n'a pas tenu, il ne pouvait pas venir aujourd'hui.
Vous savez où il est, Vincent, là? Il est au Festival de Cannes.
La montée des marches.
La tradition, il est 15h05 comme tous les jours. C'est la question moyenne du jour qui est un peu méchante, Eric. Elle est un peu méchante.
C'est Marseille,
Marseille est concernée par cette question moyenne. Non, hier, c'était
là,
pas
ça m'inquiète quand tu dis un peu méchante.
Question moyenne du jour, vous pouvez voter sur Twitter. Très simple. La saison prochaine, quel est le plus probable? Quel est le plus probable la saison prochaine? L'Olympique de Marseille gagne la Ligue Europa. Et oui, pourquoi pas? Marseille se qualifie dimanche. Ouais. Très belle épopée.
Écoute,
Marseille gagne la Ligue Europa. Voilà, une Coupe d'Europe.
Moi, je signe pour ça. Moi.
Ou le Paris Saint-Germain gagne une troisième Ligue des Champions consécutive.
Sachant qu'ils n'ont pas gagné la deuxième.
Il y a plusieurs tirants. Marseille gagne la Ligue Europa.
Oui, c'est trop dur. Ce serait génial. Le Real l'a fait. Oui, bien sûr.
Déjà, il faut gagner la deuxième. Déjà.
Écoute, c'est problématique parce qu'il y a une équipe qui n'est pas encore qualifiée en Europa League et une autre équipe qui n'a encore pas gagné la deuxième Ligue des Champions. Mais je vais quand même aller sur le Paris Saint-Germain.
Tu vas quand même aller sur le Paris Saint-Germain.
Dis-moi, Stif. Dis-moi, à un moment donné, les autres en face, ils vont se réveiller quand même. Ouais. Non, quand même.
Alors, le Real l'a fait, il a raison.
Est-ce que vous allez vous réveiller sur tout ça, la question?
Oui, aussi.
Non, mais alors ça, par contre, j'ai pas la réponse.
Tout ça devient agaçant, Eric, quand même, j'ai l'impression. Ta réponse, Eric?
Ah ben, je viens de répondre, moi.
Ligue Europa. Belle épopée. On ira faire des émissions à Marseille pour célébrer le titre.
Oh là là, ça va finir à la Casa d'Imeco suspense.
On ramènera Redon Bougaraba et Pierre Dorian.
Mais bien sûr. Et vous répondez à une réponse à 86% sur Twitter. À 86%, le PSG gagne une troisième Ligue des Champions consécutive.
Ouais, donc.
Le chemin est long.
C'est-à-dire, le jour ça me fait, ça n'arrêtera jamais, quoi. C'est-à-dire, pour nous, c'est. Non, c'est. Voilà.
Comme t'as envoyé un de tes amis par texto à la fin d'un match du PSG 5-2 je crois face à Chelsea, il t'avait juste envoyé merde, ça recommence.
Alors que Marseille va repartir à Galette et ça va repartir
SMS. Le Super Moscato Show tout de suite, le dossier Mbappé. Kylian Mbappé a mis le feu hier au Real, est-il en train de se perdre? On sera en direct avec notre correspondant Edgar Grollo. 16h, la Champions Cup et le top 14. Le menu est-il trop copieux pour l'Union Bordeaux-Bègles qui commence son sprint finale? Ils peuvent tout gagner, Bordeaux, Denis, tout gagner, mais ils peuvent aussi tout perdre. La Coupe d'Europe, la Champions Cup et le top 14. La Ligue Europa, 17h, l'Olympique de Marseille. La Ligue Europa, est-ce vital pour l'OM, pour l'ambiance, pour le sportif? Et Eric, tu le sais, pour les caisses, pour les finances de, du club. Est-ce vital ce match couperé face au Stade Rennais, Habib Bey face à Rennes? Ça sent la poudre ce match au Stade Vélodrome dimanche. Et puis, ne ratez pas notre cri du cœur à 15h30. Raymond Domenech, pompier pyromane. À quoi joue Raymond Domenech qui livre son journal intime à des journalistes qui appellent et pas comprennent. On a du mal à tout comprendre parfois dans les démarches de Raymond. Hein. Ouais. Et puis Didier Deschamps, sélectionneur de l'Italie. Est-ce que ça vous plairait? Ça, c'est le programme à 17h30.
Ça te ferait Didier. Moi, ça me plairait pas du tout. On en parlera tout à l'heure.
Kikadi, le Kikadi à 17h45, auquel participera Benoît Boutron aujourd'hui, notre guest pour le deuxième jour.
Hier, Benoît se frise des moustaches au Kikadi.
Dans le Super Moscato Show.
Mais le mec, il arrive. Il est bon, il est fort. Il roule sur tout le monde.
Bah oui,
il
est
Je comprends bien pourquoi il est bon support. Je comprends bien pourquoi t'es bon avec le Kikadi quand Benoît est en coulisses.
Oh, c'est pas beau ça, c'est
ça. Ouais, mais justement, comme on disait hier, j'étais en route pour le Greichlet. Si c'était une aide, il m'aurait pas posé.
Je vous fais le confidence, j'ai demandé à Antoine, le producteur
de toutes les émissions.
Aujourd'hui, tu m'aides au Kikadi.
Et il a dit quoi?
Ah non, non, moi j'aide qu'un seul mec. Il me dit que c'est le roi.
Vincent Moscato. Antoine Jarnier est fan de Vincent.
Il est gaga, lui.
Le Kikadi, c'est à 17h45 dans le Moscato Show cette semaine. Vous pouvez remporter un vidéoprojecteur Acer. Pour gagner votre vidéoprojecteur, vous appelez tout de suite le 3216, touche 4, ou vous envoyez Kikadi par SMS au 7 30 de 16. Kikadi par SMS au 7 30 de 16. Un petit point météo tout de suite à Madrid, le temps est à l'orage.
RMC, le Super Moscato Show.
Des pluies torrentielles ont balayé l'Espagne, amenant les autorités à déclarer le niveau rouge d'alerte le plus élevé pour une situation éventuelle de danger extrême.
J'affiche mon ambition, après peut-être que je ne vais pas réussir. Ça ne fera pas de moi une mauvaise personne, mais ça fera de moi quelqu'un qui a essayé au moins.
La ligne directrice, c'est celle-là.
La capitale, Madrid et ses environs, la province de Tolède et la ville de Cadix ont été placés sous cette alerte.
Si t'es bon, t'es sur le terrain, t'assumes. Si t'es pas bon, tu te tais, tu restes sur le banc, tu regardes les autres.
Là, pour lui, une exemplarité, un professionnalisme.
Le maire de Madrid a exhorté les habitants à rester chez eux.
Con las temperaturas, los viajes.
Ce que pensent les gens, c'est le cadet de mes soucis.
Les services d'urgence ont envoyé des textos avertissant des risques d'inondation et recommandé d'éviter de conduire dans les rues.
Hay complicaciones, más. Sí, quizás.
Vous êtes pas content? Triplé.
Un, deux, tres, un poquito
banane. Breaking news.
Oui, Didier qui sera présent dans les journaux moyens de Morgane Moré, j'ai oublié de le dire.
Dans le Moscato Show.
Il sera présent, Didier Deschamps, puisque hier il avait le 20h de TF1 et après une conférence de presse. Donc,
pas une erreur.
Eric, il nous a donné à manger.
Un peu quand même.
si. On a, avant le débat Mbappé, avant de tout vous expliquer sur ce qui s'est passé hier, Stephen, on a déjà une mise au point à faire tout de suite. C'est une consigne de Pierre Dorian. Ouais. C'est toi qui t'y colle. Là, c'est comme ça vient de tomber. C'est le chef Pierre Dorian qui n'est pas là.
Qui nous donne des ordres dans notre groupe NASA, qui nous dit non, je suis à Bayonne, les mecs, et il faut absolument saluer Florian. Du Bar Basque, qui écoute le Moscato, un fidèle auditeur du Moscato Show. Donc voilà, on t'embrasse, Florian, et continue à écouter.
On était au Victor Hugo à Bayonne, pas au Victor Bar Basque.
Ah, d'accord, pardon.
Voilà, on avait reçu Benoît Saint-Denis, c'est ça.
Voilà, tout à fait. On avait fait tous les bars de Bayonne, donc on s'en souvient.
Donc Pierre Dorian, si j'ai bien compris, qui croque des t-shirts.
J'ai bien l'impression que
change de message à la radio. Voilà.
Salut Florian.
On embrasse les Chipiro et les.
Et bravo, qui a pu se rhabiller.
Chipiro et quoi?
Allez, on attaque le Real Madrid.
Eh ben, les trucs del Padron, là, les machines del Padron, comment ça s'appelle, les trucs qui
font mal. Vert, là, tu sais, les. Non, c'est ça?
Mais oui, les
poivrons.
Mais oui, les piments, là, les pimento del Padron.
Allez, il est 15h11, vous écoutez Radio Cramé, on attaque le Real Madrid, c'est parti. Le Real Madrid nous offre une très belle semaine après la conférence de presse lunaire de Florentino Pérez. C'est au tour de Kylian Mbappé de piquer sa crise quasiment en direct. Scène assez lunaire. Hier, 36e journée de Liga, match sans enjeu sportif. Le Real, qui ne peut plus rien gagner cette année, recevait Oviedo. Victoire 2-0. Mbappé était sur le banc, il a été sifflé. Branca à son entrée en jeu. Et il s'est lâché après le match. Il a mis en cause son coach et ses coéquipiers sans aucune autocritique. Après deux saisons, débat très simple, l'aventure de Kylian Mbappé au Real tourne au vinaigre. Doit-il se remettre en question? Mbappé, doit-il se remettre en question? On vous attend au 32-16. Il a beaucoup de travail cette semaine, hein. On l'a beaucoup sollicité, notre correspondant à Madrid. Edgar Grollo est avec nous. Salut Edgar.
Salut Adrien, salut tout le monde.
Salut, tigling, tigling.
Et vous aviez raison dans le générique, il pleut, il fait moche en plus, donc c'est vraiment
tout va mal. Tout va mal à Madrid. Tout va mal. C'était donc un match sans enjeu de fin de saison qui devait conclure une semaine agitée à Madrid. Tout devait peut-être se calmer hier soir, mais Kylian Mbappé en a décidé autrement. Il a décidé de rallumer le feu à Madrid, Kylian.
Ouais, exactement, et il a surpris absolument tout le monde, hein, en venant en zone d'interview. Il était en mode règlement de compte et il a évité aucun sujet. D'abord, il recadre un journaliste. Notre confrère lui demande: est-ce que tu t'es trompé en partant en vacances en Italie alors que tu étais blessé?
En vacances? Tu ne sais pas si j'étais en vacances. Ça, c'est ton opinion. Les gens ne savent pas ce que je faisais là-bas, ne savent pas si j'avais l'autorisation du club, ce qui était le cas. Au final, ça vend juste du papier et ça fait parler les gens.
Kylian Mbappé a expliqué qu'il était venu nous voir, les médias, pour s'exprimer directement parce que d'autres ne le faisaient pas et qu'il était obligé de lire la presse pour savoir ce qu'il pensait. Sous-entendu, il en a marre des fuites dans le vestiaire et des joueurs qui n'assument pas publiquement ce qu'il pense. Et puis sa déclaration qui a fait le plus parler, c'est l'explication qu'il donne sur sa non-titularisation hier soir. Écoutez.
Je suis très bien, à 100%. Je n'étais pas titulaire parce que l'entraîneur m'a dit que j'étais le quatrième attaquant de l'effectif. Demandez à l'entraîneur, que voulez-vous que je vous dise? Il faut respecter la décision du coach et je dois travailler pour être meilleur que Mastantuono, Gonzalo Garcia et Vinicius.
Voilà, avec un peu de chance, il arrivera au niveau de Mastantuono un jour. Autre déclaration forte, Kylian Mbappé estime que l'équipe avait une meilleure structure en début de saison avec Xabi Alonso que maintenant. Réponse d'Alvaro Arbeloa quelques minutes plus tard: c'est sûr qu'il a mis beaucoup plus de buts en première partie de saison qu'en seconde. Voilà, bonne ambiance, Adrien.
Bonne ambiance à Madrid. Alors, c'est le feu à Madrid. Kylian Mbappé réchauffe encore un peu plus le club. Il souffle sur les braises. Eric, est-ce qu'il est en train de se perdre, Kylian, dans toutes ses interventions en cette fin de saison?
Ouais, alors c'est vrai que là on a un petit peu de mal à le suivre. Et les Espagnols encore plus que nous d'après ce que j'ai compris.
Bah, alors
attention,
marée, hein.
il faudrait pas qu'ils reviennent à la reprise en juillet avec la Coupe du monde autour du bras, tu sais, en train dans le vestiaire.
Ah, il faudrait qu'ils reviennent
parce que non mais quand je dis il faudrait pas, oui, il faudrait. Ouais. Tu as raison, il faudrait pour faire fermer un peu des bouches là-bas, tu vois, parce que ça ferait sensation. Bon, et ça montrerait que dès qu'il a une belle équipe autour de lui, de coup, comme par hasard, il devient meilleur. Sinon, moi, c'est vrai que là où je comprends plus, mais c'est je crois que c'est générationnel et c'est pour ça que nous
on est un peu largués
de vieilles choses avec un inconnu, un autre sport, moins un autre football.
C'est vrai que ça se fait pas avant.
C'est vrai que quand tu es blessé, je veux dire quand j'étais, alors eux aujourd'hui malheureusement avec les réseaux sociaux et tout, ils peuvent plus rien faire, ça c'est clair, mais quand tu es blessé, tu vois, ben et regarde, il y a le festival de Cannes maintenant, tu vois, tu es joueur de Monaco, tu es blessé. Ben à l'époque, le mec d'un joueur de Monaco, il allait pas au festival de Cannes s'il était blessé. Et pourtant, il pourrait dire, ben, je suis blessé, c'est des jours off. Ben non, enfin, en tout cas, j'ai pas connu autour de moi et on a dû faire des bêtises aussi, bien sûr. Hein. On les a oubliés comme toujours, mais tu fais attention, quoi. Surtout quand tu sais que tu es dans l'œil du cyclone et quand tu sais que tu es le joueur peut-être le plus observé du monde du coup. Déjà toi, t'as que joueur et en plus du coup, t'as ta vie privée aujourd'hui parce que d'après ce que j'ai compris, sa chérie est très connue en Espagne, je crois.
C'est une actrice extrêmement connue en Espagne.
C'est une personnalité publique.
Voilà. Oui. Donc ça veut dire deux raisons de se faire recourir derrière par les mecs. Donc essaie de, quand ça va moins bien, quand tu essaie de faire un peu profil bas. Et j'ai l'impression, mais c'est un peu.
Sa réponse, elle est bizarre quand même, parce qu'il a dit. Je suis pas allé forcément en vacances ces deux
non,
jours.
Non, parce que lui, en gros, il dit. Moi, il dit. En fait, il est parti à l'étranger, mais il a dû bosser. Il était en phase de récupération après une blessure. Donc lui, il dit, je pars à l'étranger. Déjà, je fais ce que je veux. Et il s'est peut-être entraîné 4 heures par jour sur place.
Oui, voilà. Ce qui sous-entend, c'est qu'il continue de suivre le processus de récupération qui lui est donné par le club.
Donc non, il prend pas ça pour des vacances, de la détente. Quoi. Voilà.
Oui, voilà. Non, mais sauf que tu passes bien que ces images-là, Kylian Mbappé, ou même si Mbappé lui s'en rend pas compte autour de lui. De lui dire fais gaffe, quoi, voilà, fais gaffe en ce moment, profil bas, c'est bon, ta vie elle va être très longue, tu vas pouvoir t'amuser derrière, tu vas pouvoir Et derrière, ben, tu es obligé de prendre la foudre quand ça va pas, quand tout le monde attend après toi, quand t'as plus, les mecs se rendent compte finalement que ben, quand il a pas été là, ils ont gagné, et quand il revient, ça va pas beaucoup mieux, et que ils gagnent encore une fois rien. Ça fait deux ans de suite qu'ils gagnent rien. Donc ben moi,
Nib, voilà, c'est ça que c'est.
Mais oui, mais c'est ça que qu'on pourrait lui reprocher, c'est de
oui, mais bon,
de pas faire profil bas à ces moments-là. Après, je le répète, le Real. Ben c'est faible, il faut que se remettre en question aussi.
Voilà, ben c'est ça faible. Le problème.
Et c'est pour ça que je parlais d'une éventuelle Coupe du Monde, parce que ben là, d'un coup, il rentrerait, il pourrait faire le cake, tu vois.
Mbappé, est-il en train de se perdre, Stephen Brun?
Écoute, c'est jamais anodin quand même. Mbappé prend la parole comme ça, après un match comme ça, c'est-à-dire qu'il savait qu'il allait devoir répondre à toutes les questions sur l'actualité.
C'est lui qui décide de son propre chef d'aller parler aux médias.
Et il savait qu'il allait devoir répondre sur la bagarre Tchouaméni-Valverde, ce qu'il a fait d'ailleurs. Il a dit qu'il n'était pas au courant, qu'il allait devoir répondre sur ses noms titularisation, et il le fait, mais tu sens qu'il est venu pour régler des comptes, entre guillemets. Et tu comprends, grosso modo, que par ses déclarations, il a jamais accepté le licenciement de Xabi Alonso. Il le dit très clairement.
Donc, il était très proche.
Quand il était très proche, parce que quand il y avait Xabi Alonso, le joueur numéro un du Real Madrid, c'était Kylian Mbappé, et que Xabi Alonso avait mis Vinicius sur le banc pour permettre à Mbappé de s'exprimer plus librement, et que depuis que Xabi Alonso est parti, Vinicius est redevenu un peu le numéro un. Et tu sens qu'il y a une scission dans ce vestiaire entre les pros Xabi Alonso et les pros Arbelois. Donc il a réglé ce compte-là. Là où je lui en veux un petit peu à Mbappé, c'est son manque de discernement dans sa façon de faire. C'est-à-dire que son histoire de « je pars en Italie trois jours », il avait l'autorisation du club, il fait ce qu'il veut. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est de ne pas prendre en considération l'état sportif et les résultats du Real Madrid pour faire ce genre de choses-là, dont tu sais, Eric l'a dit, ça allait faire beaucoup, 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 beaucoup de bruit. C'est qu'à un moment donné, fait profil bas. Et je trouve qu'il n'a pas de discernement et peut-être pas de jugeote sur ses faits et gestes par rapport à la situation sportive du Real Madrid. Après, il ne dit pas non plus... Enfin, il y a beaucoup d'ironie dans les propos qu'il y a Mbappé. Quand il dit, j'ai compris que le coach m'a dit que j'étais quatrième attaquant et qu'il faut que je travaille plus fort pour être devant Mastantuono ou Gonçalo. Mastantuono, je ne sais pas comment il s'appelle, bref. Et l'autre, c'est Gonçalo Garcia.
Gonçalo Garcia.
Ramos. Là, c'est beaucoup d'ironie et peut-être un manque de respect pour ces garçons-là, parce que sous-entendu, bah moi je suis quatrième, je suis moins fort que ces deux garçons-là. Il dit même Vinicius. Donc là, il y a beaucoup d'ironie et de tact sur.
Il n'est pas obligé de les citer.
Exactement, il n'est pas obligé de les citer. Maintenant, ce qui devient problématique pour lui, c'est qu'on est en train de se dire partout que là où il est, c'est le bordel en fait. Sa fin d'aventure avec le Paris Saint-Germain, ses deux premières saisons avec le Real Madrid, et que les gens sont en train de stigmatiser Mbappé comme un fouteur de merde et un problème dans toutes les équipes où il passe.
Et ça, mais attention, ça va être ça, Stephen, plus problématique. Oui, mais...
Denis Charvet.
Faut pas faire du bashing Mbappé non plus.
Je veux pas du bashing, mais c'est.
Un peu.
Mais
là où je suis pas d'accord avec toi,
la majorité des gens sont en train de penser ça de Kylian Mbappé.
Pas la majorité, mais oui.
Il commence à agacer, tu le vois même dans les messages qu'on reçoit.
Qu'il agace, c'est une chose. Après, là où je suis d'accord avec Stephen, c'est que.
J'ai peur qu'il agace au vestiaire.
C'est que chaque fois qu'il prend la parole, c'est pesé, c'est acté, il sait exactement ce qu'il va dire et qu'est-ce qu'il va ressentir. Mais par contre, je trouve qu'il a. Tu dis il a pas de discernement. Moi je trouve que c'est l'inverse. Quand il part deux jours, il sait très bien qu'il va être pas piégé, mais regardé.
Épié en tout cas.
Il a déjà eu l'expérience en plus en Suède, qui s'est très mal passé, qui a été amplifié. Et là, il refait la même chose. Non, Mbappé, il reste Mbappé. C'est-à-dire qu'il, pour lui, il est au-dessus des lois, au-dessus de tout le monde. Je dis pas que c'est bien. Mais dans sa position à lui, il a toujours été comme ça. Après qu'il agace, oui, il agace. Mais il faut revenir un peu sur le sportif. Il fait quand même une belle saison à le Real Madrid. On peut pas dire une mauvaise saison
sans rien gagner.
Mais c'est ça qui rend fou.
Non, mais
c'est ça qui rend fou de
ce qu'il est. J'en arrivais à ça.
Le reste suit pas.
J'en arrivais à ça, c'est que comme disait Eric, il est dans une équipe qui est pas bonne, qui est une mauvaise équipe. Et encore une fois, est-ce qu'il est responsable? Non, pas de tout. Mais il tombe encore à une époque au Real Madrid où c'est mauvais.
Alors c'est mauvais, c'est pas Luan Cuso non plus. Le Real Madrid,
non, c'est mauvais, c'est pas très bon. Tu sais très bien, tu vois comment il joue. Il y a pas de.
Non, c'est un mauvais Real Madrid.
De collectif, il y a pas de grands joueurs au milieu. À part Bellingham. Bellingham quand il rentre et qu'il est vexé, il est bon. Mais après, il est pas bon toute l'année. Donc non, c'est pas un grand Real Madrid. Et puis il marque des buts. Et moi, j'aimerais le voir l'année prochaine avec son titre avec la Coupe du Monde revenir au Real.
et repartir pour un tour.
Mais ce qui est quand même curieux, c'est qu'il est vexé de pas avoir joué le classico.
Mais oui, il est vexé.
Et il y a des bruits qu'il a esquivé les 5 dernières minutes d'entraînement parce qu'il a vu
qu'il
était remplaçant. Il a dit, bah, c'est comme ça, je me barre.
Mais il a jamais vécu ça.
Mais est-ce que ça choque quelqu'un ici, Eric Denis, qu'un mec qui a été blessé, qui ne s'est pas entraîné, qui a pas joué de match pendant 4 semaines, qui démarre un match sur le banc? Est-ce que ça, c'est choquant? Est-ce que
Kylian Mbappé,
il regarde ce qu'il se fait au Paris Saint-Germain? La gestion de Luis Enrique,
c'est ce que dit Arbeloa d'ailleurs.
Oui, mais Arbeloa, il a pas fait jouer le classico, il était prêt pour le classico. Donc si tu veux, c'est pas le match d'hier, hein. C'est d'accord. Le match d'avant.
Mais Arbeloa, il a pas le droit de dire, ah ben t'as fait la gueule, tu t'es barré pour le classico, donc je te remets titulaire.
Non, mais lui, il a loupé le classico et puis il le remet sur le banc le match d'après où lui, il pense qu'il a, il te dit qu'il a 100%. Donc je comprends sa déception.
Officiellement, il avait une gêne avant le classico qui l'a empêché de jouer le classico. Donc après, ce que dit Arbeloa, c'est normal pour moi de mettre un joueur sur le banc quand il y a 4 jours, il n'était même pas capable d'être dans le groupe.
Voilà, c'est ça.
Le gros problème dans toute cette histoire, c'est qu'on a l'impression qu'il, bon, ça c'est pas une impression, qu'il est pris en grippe par le
public. Il s'est sifflé, hein, hier.
Voilà. Enfin, donc ça public, c'est pas une impression. Ouais, non, mais ça c'est quand même un problème quand même. Quand tu es, et surtout quand tu fais des sorties comme ça, si t'as les noms des mecs, c'est-à-dire en disant et moi je suis même pas plus fort que lui,
ça peut me faire
quand le mec il revient dans le vestiaire, je le regarde un peu de travers quand même, tu vois.
Là il va fort.
Donc s'il se met le vestiaire à dos à plus, mais comment il va faire pour continuer
après,
là-bas
il est même pas en train de se perdre, il est comme ça et il est fort comme
c'est
ça.
Ce que j'ai dit, mais j'ai dit il est comme ça.
Tu cites souvent cet exemple.
Bien sûr.
Dès l'âge de 16 ans et demi, 17 ans à Monaco, quand il joue pas assez, il faut une sortie dans la presse.
Adrien, t'as besoin des autres.
Mais il a toujours été comme ça.
Il a toujours fonctionné comme ça.
Oui, ce que j'ai dit tout à l'heure.
95% du temps, il est arrivé assez fin quand même.
Oui, mais Adrien. Sauf que l'intelligence et ce qu'on appelle l'expérience, voire la bouteille, c'est que tu apprends de tes erreurs quand tu es jeune. Tu as fait des erreurs aussi, il en a fait. On a toujours loué, c'est vrai, son intelligence, sa faculté à communiquer.
Oui, tu peux t'ajuster
mais,
après.
Mais à un moment donné, quand tu arrives au Real, eh ben, tu n'es pas plus fort que le Real. Voilà, donc essaie de jauger ton environnement et là où tu arrives. Et je suis désolé, il peut marquer les buts qu'il veut, tout ce que tu veux. Et moi, je l'ai toujours défendu. Mais sauf que ça ne gagne pas.
Oui.
Ça gagne pas depuis 2 ans. Pendant ce temps-là, le PSG va peut-être prendre 2 Ligue des Champions.
Ah oui.
Donc ça veut dire que moi maintenant, je suis président d'un club qui a beaucoup d'argent.
Tu prends pas Mbappé.
Il y a Mbappé. J'ai dit mais attendez les gars.
Tu prends pas l'OM toi.
Le chat noir.
Oui, alors ben là je vais le chercher. Je vais le chercher en voiture et non, pour non. pas qu'il se perde dans l'aéroport.
Il prend
sais.
Pas la voiture, lui il prend l'avion privé.
Il le loge toute l'année quoi. Dans chez moi, il y a pas de souci.
Il vient même le prendre en pilote Aurélie.
Oh,
ben oui. Mbappé est-il en train de se perdre? Les supporters du Real nous appellent. Ils sont pas très contents. José est avec nous au 32-16. Salut José.
Bonjour à tous.
Salut José.
Alors,
José.
Est-ce que ton Kylian Mbappé est en train de se perdre, José?
Est-ce que ton Kiki s'est perdu?
Non, mais déjà, je vais commencer par reprendre une phrase de Julien Cazard. Quand ça fait plusieurs fois que t'es témoin d'une scène de crime, est-ce que t'es pas sur la liste des suspects?
C'est un grand
de manière naturelle.
Julien, c'est vrai.
Ah, tu cites les grands philosophes, on peut
voilà,
pas suivre.
Voilà, c'est important d'avoir des références.
Vas-y, José.
J'osais pas le dire.
Et non, est-ce que c'est Mbappé est en train de se perdre ou est-ce qu'il s'est perdu depuis des années? Est-ce que le Mbappé qu'on a glorifié en 2017 en louant son humilité, est-ce que ça s'est pas perdu depuis des années déjà? Et tous les problèmes qu'on est en train de retrouver là au Real Madrid, c'est les problèmes qu'il y avait sur la fin au PSG. Le vestiaire divisé, les histoires de ce qui est filtré dans la presse ou non. En réalité, c'est exactement la même chose qu'au PSG. Donc au bout d'un moment, quel est le dénominateur commun entre la fin du PSG et aujourd'hui le Real Madrid? C'est Kylian Mbappé, qu'on le veuille ou non. Donc oui, c'est un très grand joueur, oui, il a marqué des buts, etc. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il fait aussi partie du problème.
Mbappé, tu le trouves mauvais, José?
En fait, d'accord. Non, mais non. Mais
refais-la, Stéphane, et José va la comprendre. C'est une vanne, ouais. José. Écoute bien.
Mbappé, tu le trouves mauvais, José?
Ah, ok, très bien. Bien joué, bien joué.
C'est catastrophique.
Okay.
C'est
catastrophique.
Okay. Parce que j'ai pas entendu le B de Beauvais. Okay.
Non, mais la vérité, c'est qu'il gagne pas de titres. C'est ça le problème. Vas-y, avec lui. Normalement, il devrait gagner des titres partout où il passe.
Ouais, mais ça fait combien d'années qu'il n'y a pas eu 2 saisons de suite sans titre? Ça fait énormément d'années. Et la dernière fois, je veux bien que Toni Kroos soit parti, mais l'équipe, c'est exactement la même que 2024. On a juste rajouté Kylian Mbappé, plus ou moins.
Ah, t'as perdu Modric.
Donc, et en 2024, ça gagne la Ligue des Champions sans rien faire.
T'as perdu Modric et Kroos.
Ouais, t'as perdu Modric, qui était extraordinaire quand même, globalement. Mais, merci José de nous avoir appelé au 32-16 et d'avoir.
Merci beaucoup José.
D'avoir subi la vanne de Stephen Brun. Merci Edgar Grolot, et je pense, Edgar, qu'on va te rappeler la semaine prochaine très régulièrement.
Edgar, tu t'éclates à Madrid depuis 2 ans.
Mais oui, je m'éclate. Hein. Ah oui, on parle pas beaucoup de football, mais à part ça, c'est génial.
C'est une belle ville.
Tu préférais quand même vivre une année avec des trophées, non?
Bon, peut-être pour changer un petit peu l'actualité, mais bon.
Ça
me fait plaisir parce que plus il se passe de trucs comme ça, plus je passe dans le Moscato Show.
Ça c'est le gros lot, hein.
Merci Edgar. Dans un instant, dans le Super Moscato Show, un autre personnage du foot français qui a décidé lui aussi de souffler sur les braises cette semaine. L'affaire, la guerre entre Raymond Domenech et Netflix sur ce documentaire dont on a beaucoup parlé depuis quelques jours. Raymond Domenech n'est pas content du documentaire qu'il a un peu engendré. On essaie de décortiquer tout ça tout de suite avec Nicolas Pelletier, puisque un des auteurs du documentaire était présent dans l'after hier. Ils ont pu répondre à Raymond Domenech. Il est 15h28, vous écoutez RMC, c'est le Super Moscato Show jusqu'à 18h. On revient tout de suite.
RMC jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Adrien Aiguin.
Le Super Moscato Show jusqu'à 18h sur RMC avec Denis Charvet, Stephen Brun, Eric Dimeco. Comme dit Vincent, quand en général à 15h33, quand on reprend l'antenne comme ça.
Le programme.
Dans demi-heure.
Claquasse le programme, Adrien.
Vous êtes long, la détente, oui, les gars. À 16h dans le Super Moscato Show, le rugby, le débat rugby, Champions Cup et Top 14. Le menu est-il trop copieux pour l'UBB en cette fin de saison? Il y a plein de choses à gérer. Une qualif dans les 6, une finale de Champions Cup. C'est chaud pour l'UBB. On vous attend, les supporters, au 32-16. Mais d'abord, c'est chaud entre Raymond et Netflix.
RMC,
le cri de gueule du Super Moscato Show.
16 ans après Naïsna, déjà 16 ans après la grève des joueurs de l'équipe de France en pleine Coupe du Monde en Afrique du Sud, le sélectionneur de l'époque, Raymond Domenech, est une nouvelle fois au cœur de la polémique. On pourrait croire qu'il aime ça. Cette semaine donc, Netflix sort son documentaire, bien attendu, Le Bus, les Bleus en grève. Domenech témoigne et en plus, il a confié aux auteurs son journal intime qu'il tenait pendant la compétition, journal intime dans lequel il tient des propos parfois insultants sur ses joueurs. Une nouvelle fois donc, Domenech est critiqué par le public, les supporters, les joueurs. Et surprise, hier, il publie un communiqué dans lequel il attaque les auteurs du documentaire. Ils n'auraient pas, selon lui, respecté leurs engagements. À quoi joue Raymond Domenech? Quels sont les secrets et les coulisses de toute cette histoire? Nicolas Pelletier a enquêté. Il est avec nous. Salut Nicolas.
Salut les amis. Salut à tous.
Et quand Nicolas s'occupe d'un dossier, ça fait mal. Hein. Cette semaine, donc, Nicolas, l'ancien sélectionneur des Bleus, a animé une nouvelle fois le petit monde du foot français avec son style bien à lui. Hein.
Oui, et quelques heures après la publication, un communiqué donc tombe du personnage principal de ce documentaire, Raymond Domenech, qui remet tout en question comme un viol de mon âme, écrit l'ancien sélectionneur au sujet de la divulgation de son journal intime qu'il a donc lui-même confié aux équipes de production. Ce fut un réquisitoire extraordinairement violent contre ma personne, ajoute Domenech, et de poursuivre, ce fut un film totalement à charge et d'une partialité nauséabonde. Hier soir, sur RMC, le producteur du documentaire, Stephen Kanga, a répondu aux accusations de Domenech.
Nous avons échangé avec Raymond Domenech à plusieurs reprises avant qu'il accepte de participer au documentaire. Nous avons eu à poser plusieurs fois le sujet du journal intime avec lui. Pour être dans la confidence, on a même échangé avec lui au demeurant en lui disant s'il n'était pas à l'aise avec certaines choses, s'il avait besoin de prendre du temps. On lui a dit, écoutez, laissez-moi un peu de temps. Il a dit, je vais enlever de mon journal les choses que j'estime personnelles sur lesquelles je ne veux pas communiquer. Il nous a remis 394 pages. Je les ai toutes lues. On a été très clair. Il savait exactement ce qu'on allait faire de ce journal.
Le diffuseur Netflix répond que le documentaire n'était ni un réquisitoire ni une tribune et qu'il avait été réalisé dans une logique de confrontation de récits. Sur ses réseaux, Franck Ribéry a aussi attaqué Domenech. Ma mamie à Domenech, je t'aime beaucoup, juste je garde la vraie histoire pour plus tard. Allez, ciao Bello, a-t-il commenté 16 ans après. Donc Nice Night, donc toujours un sujet ciao ultra
bello.
Sensible dans le même
il est bon,
dans le monde du foot.
Il est bien, Francky,
il est bon,
Francky, il est bon, Eric, on en a fait des débats
tout le temps.
français. Sur Raymond, c'est quoi ton avis sur tout ça? Comment tu expliques tout ça, Eric? Est-ce que tu as une explication?
Respecte Kaiser
Franky.
Kaiser Franky.
Grande Franky. Eric, que penses-tu de tout ça?
Bon, non, moi, alors je l'ai regardé pour le regarder, mais je n'en ai pas. Oui, voilà, moi j'ai trouvé que. Voilà, après, bon, là, le problème, c'est que c'est toujours la cible. Tout le monde s'est acharné sur lui, là on s'acharne encore sur lui. Alors en plus, il donne toujours le bâton pour se faire battre. J'ai l'impression qu'il aime ça, mais là il s'est rebiffé, donc peut-être qu'il aime un peu moins maintenant. Mais si tu files ton journal intime, ben c'est sûr que les mecs ils vont sortir les trucs.
T'imagines si tu donnes le tien, toi, Eric?
Bon, j'ai pas de. J'ai jamais...
Ah, non, mais... il doit y en avoir.
À plus,
t'as des trucs intimes, mais c'est pas un journal.
Je suis pas d'accord avec toi, Eric.
À plus,
tu fais ta valette bien remplie. Il y a plein de dessins sur ton carnet intime.
Non mais en plus quand tu fais ça, c'est pour faire un livre un jour pour se souvenir des trucs, quoi, tu vois, c'est pas pour
mais non, mais bon,
je sais pas, moi j'ai jamais fait ça, mais il avait fait, ah voilà, donc ça lui a dû lui servir. Écoute, moi je suis juste un peu déçu parce que je trouve qu'on n'insiste pas assez dans ce reportage sur la une de l'équipe qui sort. Et on sait aujourd'hui, puisque beaucoup le disent dans le reportage, c'est pas ce qui s'est dit dans le vestiaire.
Non. Oui.
Donc voilà. Donc qui est le journaliste? Alors j'entends que le chef de l'époque dit.
Qui est la top, tu veux dire?
Tarago. On prend le parti. Non. Non, non, c'est pas le chef Tarago.
Mourinho.
Voilà, dit on décide de le sortir, tout, mais ça quand même, c'est au niveau de déontologique quand même. Je trouve qu'on n'insiste pas parce que c'est de là que tout part. Alors il y avait une mauvaise ambiance. Cette équipe-là, bah, vu ce qui se passait, elle était vouée à l'échec. Mais c'est cette lune qui tue tout.
Ouais, mais on apprend pas grand-chose. Moi, je l'ai vu.
Non, mais voilà, non.
On connaissait, on n'apprend pas grand-chose, mais En même temps, Raymond Anelka il s'excuse et il lui dit c'est trop tard. C'est surtout ça qu'on.
Non, je trouve pas Anelka.
Si.
Non, parce qu'il.
Non, il veut venir.
Il veut. Non, mais non, il veut. Il veut pas le voir.
Domenech, personne ne le trouve.
Il est exprès de ne pas être
introuvable. C'est ça qui est très bizarre.
C'était lunaire bizarre.
C'était lunaire. Non, mais
ce que je veux dire, par là, dans le documentaire, je trouve qu'il n'y a pas la tragédie de cette histoire, elle n'est pas si forte que ça. C'est ce que je reproche au documentaire.
Non mais je veux dire, là où tu as raison, on n'apprend rien. On l'a su ça, que Raymond avait tout fait pour que Anelka puisse pas faire ses excuses auprès du groupe et auprès du coach. On l'a su tout ça, c'est-à-dire que il a joué je vais tomber dans le trou, tout le monde vient avec moi, quoi. Et peut-être de que les joueurs soient attaqués pour peut-être que lui un peu moins, mais ça on l'avait dit, on n'apprend pas grand-chose. Moi je trouve que lui, c'est vrai que du coup il sort encore plus, il sort toujours, c'est toujours lui qui morfle le plus. Les joueurs, ça tire très bien dans ce reportage. Je trouve Evra, Sania, qui a, il y a notre pote là, il y a William Galas aussi, qui y est. Tu les sens sincères, touchés. Tu sens qu'ils ont perdu les pédales à un moment donné. Voilà, mais après pour cette histoire de journal intime, là j'avoue que moi j'ai écouté l'after hier soir. Il paraît même qu'il aurait vendu en droit d'auteur, soi-disant.
Oui.
Ça, c'est des soi-disant, on ne sait pas, nous. Mais si tu les files, même si tu les donnes, et les mecs, ils vont les utiliser.
Mais évidemment,
ils vont les utiliser à tes dépens. Il y a de la bombe dedans.
Il le sait très bien, lui.
C'est ça qui est dingue, en fait. Alors, on répète, on cautionnera jamais la bêtise humaine des gens qui insultent Raymond Domenech.
Non, parce que dans ce qu'il dit dans son communiqué hier, il a raison. C'est dur.
Mais là, ce que je comprends pas, c'est que 16 ans après, alors que les Bleus brillent aujourd'hui avec Deschamps et que Domenech a retrouvé un peu d'une paix sociale dans sa vie, tu sais très bien qu'en te mettant protagoniste et acteur de ce documentaire, tu vas quand même revenir au feu, et en plus tu fournis tout ce qu'il faut pour aller au feu.
Tu leur donnes à manger, en fait.
Exactement.
Mais les allumettes, c'est ça. Tu fournis les allumettes.
C'est ce que je comprends pas. Si tu voulais plus revivre ce que tu as vécu il y a 16 ans, il fallait décliner comme la plupart de tous les protagonistes, parce que Netflix a essayé d'avoir tout le monde, et tout le monde, la plupart des protagonistes ont tous refusé. Si tu voulais continuer à vivre,
oui, tu as raison,
plus sereinement, ne te remets pas dedans. Mais Eric a raison d'insister sur le journal L'Équipe, parce qu'en fait, le journal L'Équipe, pas un moment dans ce documentaire, y a un mec qui dise on a fait les cons. Parce qu'au final, voilà. Parce qu'au final, parce que... Nicolas Anelka, il a vécu une injustice. Parce que lui, il dégage, parce que tout est faux. C'est des propos calomnieux. Et il n'y a pas un moment où Journal L'Équipe dit, eh ben,
oui, mais il n'y a jamais eu de plainte posée. Nicolas Anelka a déposé plainte, mais la justice a.
Il n'a jamais prouvé que c'était faux. Mais en fait, parce que tout part de quoi? S'il n'y a pas la une de cette équipe, il n'y a jamais tout le reste.
Oui, en fait, tout ce qu'il dit sur tout le monde, excuse-moi.
Ils auraient peut-être été champions du monde.
Il n'y a pas la grève derrière, c'est fini. Ils sortent au premier tour parce qu'il n'y avait pas une bonne ambiance, on le comprend très bien aujourd'hui. Mais voilà,
mais Eric, je ne sais pas si tu as ressenti ça, mais après, à la fin du documentaire, tu ressens un véritable gâchis en fait. Tu te dis, mais c'est pas possible d'être allé si loin dans la bêtise. Tu te dis, avec des joueurs, il y a quand même de la qualité.
Et surtout, à la fin du documentaire, tu te dis, on sait toujours pas qui est la taupe.
Il y a tellement d'agents dans ce dossier. Le responsable de presse, là, quand il entend que Anelka lui dit la une de l'équipe sera demain, réunion de crise, t'appelles le patron de l'équipe, tu essayes de faire changer la une, l'autre il appelle Raymond Domenech.
Il dit, on verra demain.
Non mais
Pour conclure,
quoi qu'il arrive, cette équipe là, tu sentais qu'il n'y avait pas une bonne ambiance. On l'avait compris très rapidement. Mais la top, en réalité, c'est dit dans le reportage. Des fois, c'est même pas la top. Le mec, il n'a pas le téléphone pour appeler le truc. Il raconte son histoire à l'agent, qu'il raconte à un autre, ou en passant, il raconte un truc. Et les journalistes, après, ils font leur boulot. Et ils font leur boulot peut-être pas très bien sur ce coup-là. Voilà. Non, moi, après, les histoires d'il y avait de temps, je trouve ça toujours
pour réchauffer. L'histoire de l'OM, tu veux plus qu'on en parle?
Non mais que ce soit. Alors l'OM c'était il y a 35 ans, tu vois.
Alors ce jour-là, le journal intime dit Basile m'avait volé mon goûter.
Ah ben oui, j'ai mis le feu au journal de Basile.
Oui, on s'est bagarré dans le bus. Merci beaucoup Nicolas Pelletier. Si tu es la top d'ici 18h, si tu es la top, tu la trouves, tu viens à 18h. Merci Nico. Dans un instant, le journal moyen, première édition de Morgan Maury, mais d'abord on parie sur la Ligue 1.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Avec Christophe Payet, salut Christophe.
Salut Adrien, bonjour à tous, salut Eric, salut messieurs.
Alors je représente Vincent Moscato aujourd'hui, je joue contre Eric Dimeco.
Eh oui,
bah, tu vas être meilleur que lui. Hein.
Marseille-Rennes, le 6e contre le 5e, Marseille 56 points, Rennes 59. Si Marseille gagne, Marseille sera devant Rennes puisque Marseille a un meilleur goal average. 1,98 la victoire de l'OM, 3,70 le nul et 3,35 la victoire de Rennes. Rennes qui doit s'imposer pour espérer pourquoi pas même la Ligue des Champions. Le problème c'est qu'il y a eu 3-0 en Coupe de France entre Rennes et Marseille, mais c'était De Zerbi contre Habib Bey, entraîneur de Rennes.
C'est fou, l'histoire est folle.
Habib Bey, depuis qu'il est à Marseille, 5 victoires, 2 nuls, 5 défaites, parcours de ventre mou. Rennes, depuis que Aiz est arrivé, 8 victoires, 1 nul, 2 défaites, parcours de presque course au titre quoi. Donc je vois pas du tout Marseille gagner, je suis désolé Eric, mais je pense que ça va se terminer par un nul à 3,70 et sinon je jouerai le N2, les deux équipes marquent avec un Lepaule décisif pour 3,70 ou même buteur à 4,10. On rappelle, c'est quand même le meilleur buteur du championnat de France.
Moi je te suis Christophe, je vois pas Marseille bien terminer la saison. Tous les grands rendez-vous attendus, ils les ont ratés.
Ouais, ils joueront la Coupe d'Europe quand même, mais
l'histoire est écrite. Je vois, malheureusement pour vous Eric, je vois déjà des joueurs rennais marquer un but et aller célébrer le but devant Bey pour se venger de ce qui s'est passé, mais le film est déjà tourné, c'est comme ça. Donc le nul pour moi. Eric.
Et non, c'est une série Netflix avec des rebondissements de saison. Et la victoire de l'OM avec le but de Greenwood et qui fait comme ça la fermeture éclair à la bouche. Voilà, crac,
Et ça, c'est côté à 3, la victoire de l'OM avec but de Greenwood. Merci, messieurs.
C'est bien, le rêve est possible à Marseille encore, Eric. Merci, Christophe.
Gagner un match à la maison pour faire la Ligue Europa, c'est pas non plus, on leur demande pas grand chose.
Merci, Christophe, on en débat à 7h.
Le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
On débat de l'Olympique de Marseille, de ce Marseille-Rennes à 17h. La Ligue Europa, est-ce une obligation pour les Marseillais en cette fin de saison? Mais tout de suite, c'est le journal moyen, première édition, avec Morgan Maury, c'est sur RMC, le super Moscato Show.
RMC jusqu'à 18h, le super Moscato Show.
Adrien Aigouin.
avec Eric Dimeco, Denis Charvet, Stephen Brun. On a du mal à s'y faire, Eric. Ça fait bizarre.
Ah non, mais moi, ça m'a arraché les oreilles.
Le Super Moscato Show jusqu'à 18h. Il est 15h50. Tout de suite, le journal moyen, première édition avec Morgane Maury. Salut Morgane.
Bonjour à tous. Au sommaire, le moyen de locomotion des pauvres, celui que Vincent ne prend plus, j'ai nommé le vélo. Et nous passerons par la banlieue communiste de Los Angeles et ce bourg du nom de Beverly Hills. Et nous terminerons avec une petite offre d'emploi. C'est le journal moyen numéro 2660. Première édition, c'est parti.
En direct de la rédaction d'RMC, toutes les infos que vous n'avez pas entendues sont dans le journal moyen. Première édition.
À bicyclette.
Défi pas pour les feignants. Histoire racontée par le Parisien. Matteo Bonne a 29 ans. Il s'est lancé dans un pari fou. Rallier l'île italienne de Lampedusa depuis Paris sur un Vélib. Il a réussi un petit exploit sur son Vélib vert il y a quelques jours. Le mécanique, hein, pas le Vélib électrique, puisqu'il a grimpé le Ventoux en plus de 3 heures. Avec des pauses.
Vélib. C'est lourd un Vélib.
Ça fait combien de kilos un Vélib, non?
20 kilos.
Il est arrivé au bout.
Avec le matériel qu'il a placé sur le vélo. Donc, voyage très, très lent pour aller donc jusqu'à Lampedusa.
Ça va lui coûter cher, en loc.
Oui, mais attends, on va y venir. Jusqu'à Lampedusa, où il prendra part à un projet humanitaire. Son périple a tapé dans l'œil des personnes qui gèrent Vélib, puisqu'il l'a encouragé, mais également du maire de Paris, Emmanuel Grégoire, qui lui a écrit, qui lui a dit: n'oubliez pas de le ramener, s'il vous plaît.
Ah bah oui. Voilà, et de payer la facture.
De pas de le
jeter. C'est une bonne pub pour Vélib.
Il a dû avoir mal aux jambes, parce que là, c'est très lourd, un Vélib.
Bah, je sais pas comment il a fait.
Bon, pour le Vélib, pour résister.
Sportif.
Ah ouais, mais c'est
sportif.
Ah, mais non, mais tu prends un cycliste. Mmh. Tu prends un cycliste capable de monter le vélo, le Ventoux avec un vélo normal. J'ai monté avec un Vélib.
J'espère qu'il a choisi bon Vélib, hein, parce que deux Vélib sur quatre, il y a la roue voilée, il n'y a pas de train, ça couine.
Tu le prends tous les jours.
C'est typiquement la réflexion du mec qui prend jamais le vélo.
Est-ce que tu prends le Vélib, toi?
T'as entendu ça?
À 4h du mat, j'ai tenté de prendre le
Vélib. Ah oui, jamais tu prends le Vélib.
Tu arrives, toi, avec tes grandes jambes, là, tu tapes pas contre le guidon?
Là, tu me laisses à la fond. Il m'en classe là.
Ah ouais? Oui. C'est vrai?
Ah bah oui. J'ai le genou qui me tape les joues par contre.
Stephen sur un Vélib.
Allez, on part à la recherche d'une petite maison pour vos vieux jours, messieurs. Le générique de l'agence. Alors, si vous avez envie de déménager dans la banlieue populaire de Los Angeles, à Beverly Hills, sachez que Jennifer Lopez se sépare de sa bicoque achetée avec Ben Affleck en 2023.
Il le sait, Vincent?
Ah, je crois qu'il est Ben Affleck.
Il a peut-être déjà.
Mais non, mais il est peut-être en train d'acheter la maison.
Tu sais, Vincent, qu'elle était avec Ben Affleck?
Non, donc sa maison est à vendre.
Alors, surface 3530 mètres carrés, 12 chambres, 24 salles de bain, proche transport et commerce, bien sûr. Accolée d'une maison d'eau de 460 mètres carrés, d'un poste de sécurité, un garage de 12 places, mais aussi un parking de 80 emplacements pour accueillir vos amis pour les barbecues.
Il doit avoir des gros salaires, ce genre-là.
Avec un complexe sportif, terrain de basket, terrain de pickleball et un clubhouse. Le clubhouse, ça plaira à Vincent, un clubhouse avec une piscine à débordement, avec bien sûr le paysage de Los Angeles, de Hollywood sous vos yeux. Le prix, 43 millions d'euros. Ce serait.
Il n'y a pas le prix de juste de la maison d'hôte.
Non, la maison la plus recherchée du moment à Los Angeles.
Juste le terrain de basket.
Voilà,
à ce niveau-là, c'est.
Et souvent, les gens ne comprennent pas quand tu dis 12 salles de bain et 24.
12 chambres.
12 chambres. En fait, aux États-Unis, quand ils disent 24 salles de bain, c'est qu'ils comptent les toilettes, ça compte ça comme une salle de bain.
C'est une salle d'eau.
Il y a 12 salles de bain et 12 toilettes. En
fait. Bathroom. Ouais,
tu connais les États-Unis, toi?
Bien sûr.
Bon, bah encore une maison qu'on a
chauffée. Son frère vit là-bas.
Allez, c'est bientôt le départ du Tour de France. Le Tour de France s'élance le 4 juillet de Barcelone. Le Tour de France est aussi sa caravane publicitaire. Hier, Michel-Édouard Leclerc, le président du comité stratégique du groupe Leclerc, a passé une petite annonce sur les réseaux sociaux. Il cherche un pilote pour le chou-fleur électrique de la caravane.
Ah oui.
Il a écrit: après le succès des quads melon et fraises, après le poireau électrique.
Là, ça devient culte, ça.
Qui a fait un carton auprès du grand public.
Alors, je peux vous l'avouer aujourd'hui. Le poireau électrique, c'était moi.
Ah oui, pourquoi?
Ah non. Non, moi j'étais le concombre électrique, pardon, excusez-moi.
C'est avec le chou-fleur électrique que nos équipes sillonneront les routes de France. Alors qui pour conduire notre chou-fleur? Comme chaque année, désormais, c'est sur appel d'offres et sélection par test.
Ça doit être bien payé, non?
On recherche un conducteur. C'est pas précisé. On recherche un conducteur sympa. Il faut avoir de l'énergie, être animé d'un bon esprit d'équipe pour s'intégrer au rythme du caravane qui se déplace souvent sur du plat, comme dans les virages de montagne. Nos véhicules doivent être conduits avec prudence, car il y a de la foule qui veut s'approcher. Et le poireau et le chou-fleur sont des engins assez grands qui exigent attention et doigté. Voilà ce qu'il y a, Gérald. Vas-y. Il faut être disponible pour le Tour de France masculin, mais aussi le Tour de France féminin pour en août.
Je reprendrai du service culturel l'aubergine.
Voilà, la boucle est bouclée.
Et avoir le permis B. Allez, on termine.
La tienne, il faut qu'elle soit électrique maintenant.
New York, rapidement.
Alors, bonne ou mauvaise idée, à l'occasion de la Coupe du Monde de foot, New York veut renommer provisoirement certaines rues avec des noms de footballeurs, une rue Pelé et aussi une rue de Manhattan, la Thierry Henry Way, car l'ancien attaquant a joué au Red Bull New York avec sa, en fin de carrière. Mais c'est une initiative qui ne passe pas auprès des Américano-Irlandais. Ils sont nouveaux, ils n'ont pas oublié la main de Thierry Henry qui a conduit au but de Galas et à la qualification pour le Mondial 2010. Et ils ont proposé de renommer cette rue la ruelle de la main.
Ouais, en fait non, on n'a pas conscience nous du drame encore dans la tête des Irlandais. Hein. Nous on est passé à autre chose parce que c'était en notre faveur.
10 000 des Coupes du Monde, c'est trop rare.
On aurait pas dû y aller. Hein.
Ouais. C'est surtout voilà, écoute, si c'est surtout qu'il n'y aurait pas eu le drame, il n'y aurait pas eu Netflix.
Cette histoire est dingue, ça part de la main de Thierry Henry qui au final après Nice se retrouve dans le bureau de Nicolas Sarkozy pour raconter ce qui s'est passé. C'est totalement dingue en fait tout ça.
Rosine Bachelot fait une très belle intervention dans le documentaire. Mon petit chat,
tu sais, vous savez que pour que cette histoire Nice-Na, on en parlait à la rédac, soit vraiment parfaite au niveau dramaturgie, il aurait fallu que Bernard Laporte soit encore ministre de sport. Il aurait voulu entraîner l'équipe de France de foot, il aurait viré Domenech, ça aurait été complètement dingue.
Je pense qu'il aurait secoué de Raymond.
Ça aurait été fou.
On n'a pas parlé tout à l'heure des politiques à ce moment-là, mais c'est eux qu'ils ont mis quand même pas mal de bordel aussi.
Et ça
m'étonne pas des politiques. Voilà.
C'était fort.
Merci
Morgan.
Merci Eric.
Rendez-vous à 16h45 pour le journal moyen deuxième édition. Juste soyez bien là, puisque je vous rappelle que Didier Deschamps était dans le 20h de TF1 hier. Et après, il a donné une conférence de presse. Presque, on va vérifier ça. Tout de suite, dans le Super Moscato Show, le rugby, l'UBB, le menu de fin de saison de cette fin de saison est-il trop copieux pour l'UBB qui joue sur tous les tableaux, top 14 et Champions Cup la finale. C'est tout de suite dans le Super Moscato Show sur RMC.
RMC jusqu'à 18h.
Le Super Moscato Show.